Ah, il y a quelques années, j'ai trouvé ce livre, Découvrir un sens à sa vie. Et c'est par un juif, Viktor Frankl. Et je ne vais pas dévoiler toute l'histoire, mais c'est un livre qu'il a écrit dans un camp de concentration. Hein, et donc c'est vraiment très fort, mais très inspirant. Hein. Ça ne parle pas de Jésus, mais quand même, il parle de la logothérapie. Et donc, le logos, c'est la logos qui a été faite chair, c'est Jésus. Et donc là, le logothérapie, c'est vraiment une thérapie, même s'il ne parle pas de Jésus. Hein, il y a beaucoup de Jésus dans ce livre. Et donc, pourquoi je parle de ça? Découvrir un sens à sa vie, c'est parce que les protestants aussi ont parlé de ça un peu, surtout Luther. Et lui, il a parlé, il a dit un gros mot, mais un grand mot, sacerdoce universel. Hein? Sacerdoce universel. Et donc là, vous êtes perdus, là, c'est sacerdoce. Ça veut dire le rôle de chacun dans la vie. Là, il ne faut pas limiter ça juste à l'Église. Hein, parce que là, vous allez dire, oh, j'ai rien à faire. Parce que je ne suis pas un grand prédicateur, je ne peux pas. Et donc, les protestants, ils étaient très démocratiques parce qu'ils ont trouvé le sacerdoce universel. Ça veut dire, chacun de nous, on est un prêtre ou une prêtresse. Mais prêtre, prêtresse, oh! Mais on a un sens. On a un rôle dans cette vie, t'es pas juste là pour rien faire. Que ça soit grand, petit, mais il n'y a pas de petite vocation. Parce que quand Dieu a créé l'homme, et quand il a créé la femme, il a soufflé dedans. Il a mis cette vocation, ce sens. Il n'a pas soufflé pour rien. Il n'a pas soufflé pour rien. Il n'a pas partagé sa vie avec nous pour rien. Et donc, juste au début de l'Apocalypse de Jean, hein, c'est ce que Luther a trouvé. Hein. Il a dit à celui, hein, c'est Apocalypse 1, verset 5 et 6, un peu ça, entre les deux, à celui qui nous aime, alléluia, hein, parce que l'énergie pour tout cela, c'est l'amour de Dieu. Il a soufflé son amour en nous. À celui qui nous aime. Et après, quelquefois, on a raté la coche, comme Jean-Jacques Goldman dit, à nos actes manqués, à nos vocations manquées, à nos sens manqués. Mais à celui qui nous a délivrés de nos péchés, de nos actes manqués. Et donc, il faut ça, il faut être aimé, il faut être pardonné. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Et donc, voilà, chacun de nous, on a un rôle, on est un sacrificateur, on peut dire un sacré facteur. Facteur qui livre, bon, mais je vais parler de consacré plus tard, et donc attention. Mais un sacré facteur. Et chacun de nous, on a quelque chose à livrer. On a quelque chose à livrer à ce monde. Il faut pas juste dire il n'y a que l'Église où il y a quelque chose à faire. Parce que l'Église est devenue chère en Christ, le corps de Christ. Et Christ n'était pas juste limité. Il a béni la synagogue. Mais il n'était pas limité à la synagogue. Il était incarné dans ce monde. Et chacun de nous, et c'est l'aspiration de chaque être humain, même les gens qui connaissent pas Jésus. Beaucoup de gens cherchent à trouver cette vocation dans leur cœur. Et Dieu, il a donné une sacerdoce universelle. Mais bien sûr, tout cela est attaqué par le manque d'amour et par le péché. Donc c'est pour ça que la victoire de Jésus sur la croix nous libère pour entrer dans cette sacerdoce universelle, ce sens de trouver, on peut trouver un sens à notre vie. Et donc, quand je dis sacerdoce universel, trouvons un sens à notre vie. Pourquoi je suis ici? Et on peut dire, oh, il y a 10 ans, j'avais un sens. Il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, cette semaine, qu'est-ce que c'est le sens de ma vie? Et donc, voilà. Montrez vos mains là, gauche. Levez les mains gauche. Voilà. Oh, les mains. Voilà. Voilà, c'est là. Et donc là, tout mon message, ça, c'est la main du ministère, la main de votre vocation cette semaine, d'accord? Donc on va étudier nos mains, hein? D'accord? Madame Soleil, non, c'est la logothérapie. Et donc on va trouver Jérémie, et Jérémie chapitre 1, et je vais vous donner 5 choses, d'accord? 5 choses pour trouver votre vocation cette semaine, et aussi pour après. Et donc la vocation de Jérémie, ah Jérémie, j'aime beaucoup Jérémie, quel homme. Et donc verset 5 de Jérémie chapitre 1. Donc là, avant de lire ce passage, je vais vous poser une question. Et donc c'est la question que mes enfants commencent à me poser vers 6, 7, 8 ans. Hein. Et un jour, je me rappelle, Myriam, elle est venue, elle m'a dit, « Papa, j'étais où avant de naître ?» J'ai déjà posé là. « J'étais où ? Et toi, t'étais où avant de naître ? Jean-Luc, t'étais où ? T'étais à Wavrin ? Dans les web ? J'étais où ? » Et donc, bien sûr, le New Age et tout ça, ils vont dire, « Ah, j'avais une autre vie. » Tu vois ? Mais même là, mes racines étaient où ? On peut dire que j'étais dans la capacité génique de mon papa, et après, je suis juste biologique. Mais tu sais, trouver un sens à notre vie, c'est beaucoup plus que d'être une molécule ou d'être biologique. Il faut avoir une affection dans notre vie. Un autre gars, je parlais avec un autre gars une fois, il m'a dit, il citait Hubert Reeves, hein, c'est pas mon ancêtre, hein, mais un Canadien, Hubert Reeves. Et il a dit, Hubert Reeves, il dit que nous, on n'est que la poussière du Big Bang. Hein, c'est bien, et donc là, avant d'exister, j'étais dans le Big Bang. Et je suis toujours en mouvement, on est en mouvance, je suis un Big Bang en mouvance. Moi, c'est pas mal, Big Bang, Robert. Big Bang en mouvance, la poussière. Je suis une poussière en mouvance. Mais j'ai dit, ah, mais... Et il m'a parlé de ça, j'ai dit, oui, mais je suis une poussière qui est aimée. Et là, ça fait toute la différence. Je suis une poussière, d'accord, mais qui est aimée. Et j'étais où avant de naître? Voilà, Jérémie, dedans la réponse. Vocation de Jérémie, verset 5. Avant que je ne te forme dans la ventre de ta mère, je te connaissais. Waouh! Je te connaissais. J'étais connu. Hein? Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. Et donc voici mon message aujourd'hui. Et il ne faut pas être effrayé par ce mot prophète pour les nations. Tu vois, je dis, moi je ne suis pas un prophète pour les nations. Tu sais, je suis un prophète pour la vaisselle. Qu'est-ce que ça s'est passé? Mais qu'est-ce que... Je veux dire que chacun a un sens. Hein, d'accord, la vie de Jérémie, un homme de l'histoire, prophète pour les nations. Mais chacun de nous, Dieu, il a préparé quelque chose. Et donc, la main, là, on va l'étudier, hein, comme ça. Hein, je te connaissais, d'accord, là, je te connaissais. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. D'accord? Et donc là, cette semaine, vous allez regarder votre main, sortez, voilà, qu'est-ce que c'est le sens? D'accord? Et donc, je vais, le plus important, tu sais, dans la main, ce sont les pouces, hein, plus important. Son pouce, on n'a pas d'emprise, rien faire. Et de faire des trucs juste comme ça, c'est dur. Et donc, voilà, il faut avoir la pouce. C'est plus important. Et aussi, on peut faire ça avec la pouce. Hein. Voilà, comme ça. Et donc là, tu vois, en hébreu, là, parce que c'est écrit en hébreu, c'est Yada, Yada, Yada. J'aime bien Yada, on peut le dire, Yada. Vous pouvez dire à votre voisin, Yada, Yada. Yada, c'est le mot qui est utilisé quand il dit Adam a connu Ève. Mais même, c'est une relation intime. Et nous, on a besoin d'être connus, d'un côté physiquement, fait du bien, mais émotionnellement. On a besoin de partager nos pensées avec quelqu'un d'autre et on a besoin d'être connus spirituellement. Yada, yada. Et quelquefois, quand je disais yada ce matin, je pensais à un bébé. Et peut-être parce que je suis un peu anglais, j'ai dit yada, yes dad, oui papa. Yada, yes dad, yes. Ou peut-être allemand, ya. Yeah. Ah, c'est moins bon en allemand. Mais yes dad, yada. Ou peut-être si vous aimez Star Wars, Yoda. Si vous pouvez penser à Yoda avec ses oreilles vertes là. Yada, yada. D'être vraiment connu. Et vous savez, c'est ça l'amour aussi. L'amour est d'être connu. Et si tu aimes quelqu'un, et si tu. Dans toute la grandeur de l'amour, il n'y a pas d'amour sans connaissance. Tu sais, c'est le grand problème quelquefois dans nos relations. C'est parce qu'on dit, oh, je t'aime, mais tu ne me connais pas. Tu ne donnes pas le temps de me connaître. J'ai envie d'être connu. J'ai envie d'être connu. Et dans une église, on a envie d'être connu. Et la communion fraternelle, ça passe aussi par un dévoilement d'un côté de beaucoup de choses. Ça prend toute une vie. Mais le fait que Dieu dit, je te connais, Robert. Je te connais, je te connais. Je te connais, Robert. Je te connais. Chaque matin, je te connais, je te connais. Et ça peut nous déranger aussi. Si vous cachez des choses. Bien sûr, on cache tous des choses, même dans nos relations les plus intimes. C'est bien. Je cache des choses, mais bien sûr. Tu vois, il y a certaines choses, on ne veut pas que tout soit dévoilé. Mais bien sûr, on essaie de grandir en intimité. Mais avec Dieu, tu ne peux rien cacher. Rien, rien, zéro. Même si tu as une petite figuier, tu diras, je vais utiliser une feuille de figuier pour cacher. Mais tu ne peux rien cacher. Et donc, soit ça te fait vraiment peur, ou soit ça te libère. Tu vois, ou peut-être les deux en même temps. Ça dépend si tu es bien luné ou non. Mais moi, je dis que c'est super d'être complètement connu de Dieu. Il faut avoir le courage d'être connu de Dieu. Le courage d'être connu de Dieu. Quelquefois, c'est ça un peu un processus du salut. C'est d'avoir le courage de dire oui à Dieu, regarde-moi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le courage d'être connus. Parce qu'ils ont une mauvaise image de Dieu. Parce que si tu veux être connu, il faut aussi connaître que Dieu est un Dieu de grâce. Et que quand il te regarde pas avec un visage serré, rempli de revanche. Mais il te regarde avec un sourire, d'accord? Il te regarde avec un sourire. Et l'autre jour, bon, il y a longtemps, hein, il y a Nadège qui, l'été dernier, oh, c'est pas au janvier, non, janvier je pense, janvier, pas l'été, j'étais avec les Coréens. Et je suis tombé sur Gatsby le Magnifique, vous connaissez le film? Gatsby le Magnifique. Et moi, j'aimerais réécrire ça, Jésus le Magnifique. Jésus le Magnifique. Mais je ne sais pas si vous avez vu le film avec... bon, là, c'est le film pour Newman. Il y a aussi l'autre Capriccio, là, qui a fait un film. Là. Et le moment clé de ce film et du livre, c'est le sourire de Gatsby. Et je dirais, le moment clé de nos vies, c'est le sourire de Jésus. C'est quand tu rencontres le sourire de Jésus. Et surtout, tu as besoin de rencontrer le sourire de Jésus... quand tu es dévoilé. Parce que sinon, tu ne vois pas de dévoilé. Tu vas marcher comme Adam avec ses feuilles de figuier. Et au lieu de dire, voilà, regarde-moi Seigneur, et je reçois ta grâce. Et la grâce sourit sur nous. Ce repas-là, c'est le sourire de Dieu sur le monde. Mais voilà, je vais lire un passage de ce livre. D'accord? Et voilà, ça c'est Gatsby, finalement Jésus, il aurait un meilleur sourire que ça. Mais quand même, Paul Newman, c'est pas mal déjà. Mais voilà, il parle de Gatsby, mais pense à Jésus. D'accord maintenant, Jésus qui te parle. Il m'adressa un sourire complice. Bien plus que complice. Un de ces sourires rares, source d'éternel réconfort. Source d'éternel réconfort. Comme on n'en rencontre que 4 ou 5 fois dans sa vie. Un sourire qui défiait, ou semblait défier, brièvement le monde entier. Puis se focaliser sur vous, comme s'il vous accordait un préjugé irrésistiblement favorable. Je vais relire ça. Un préjugé irrésistiblement favorable qui vous comprenait dans la mesure exacte où vous souhaitiez être compris, qui croyait en vous comme vous auriez voulu croire en vous-même. Oh, alléluia, ce sourire de Jésus, qui croyait en vous comme vous auriez voulu croire en vous-même. Oh, j'aime bien ça. Qui vous assurait que vous lui faisiez précisément l'impression que dans le meilleur des cas, vous espériez produire. Alors là, tu dis, mais Jésus, tu me connais. Regarde, je suis horrible. Et Jésus dit, regarde, mon fils Jésus, regarde sa beauté, regarde le plaisir que j'ai en lui. Et ce plaisir que j'ai en lui, c'est à toi comme un cadeau de grâce. Et donc, on n'a pas peur de tout dévoiler, hein, d'être connu par Jésus. Et donc, je te connaissais, hein, de grandir dans cette intimité avec Dieu. Bien sûr, c'est mieux quand c'est comme ça. Hein. Et si c'est comme ça? Non, non, on ne veut pas ça. Mais malheureusement, hein, pour certaines personnes, on voit ça en Matthieu 7. Hein. En Matthieu 7, c'était Jésus, c'est même Jésus lui-même qui parle. Et il dit 23, hein, il dit beaucoup me diront en ce jour-là, hein, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Terrible. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi qui commettez l'iniquité. Non, mais commettez l'iniquité, prophétisez, faire des miracles, prophétisez. Hein, même là, je prophète des nations. Mais là, c'était... Ces gens-là faisaient tout ça sans le Saint-Esprit. Avec une ambition humaine. Avec un désir de dominer sur les gens. Et d'avoir leur propre gloire. Et d'être connus par des hommes. D'être connu par des hommes. Voilà, je suis grand, je suis connu. Et les pères dans le désert, hein, ils étaient un peu sévères avec eux-mêmes, hein, il faut le dire. Mais une de leurs phrases était, si tu veux être connu de Dieu, sois ignoré des hommes. Peut-être ils sont un peu extrêmes. Mais quand même, quelquefois, ça nous fait tellement du mal quand on est ignoré. On souffre d'être inconnu et ignoré, surtout si nous pensons qu'on a fait une bonne œuvre qui mérite d'être vue et qu'on est ignoré. C'est une blessure, mais c'est une superbe blessure. Je vous encourage à être blessé comme ça. Parce que plus tu es ignoré par les hommes, plus tu es connu par Dieu. Et tous ces gars qui disent, voilà, regarde-nous, grande vedette. J'ai des milliards de personnes qui me regardent sur Facebook. Mes prédications prophétiques touchent le monde. Bon, je ne suis pas contre, hein, parce que quand tu utilises quelqu'un pour sa gloire, alléluia. Mais tu vois ce que je veux dire, hein. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans le monde. Et moi, j'ai vu vraiment l'horreur l'horreur dans certaines églises, vraiment d'une sorte d'évangile de prospérité, qui exploitait des gens, qui dominait les gens pour la gloire d'un seul chef. Et Dieu dit à tout ça, même on devait payer les prophéties, on doit payer l'exorcisme. Et c'était vraiment une domination. Et Dieu, avec tout ça, il dit, j'ai rien à faire avec vos ambitions personnelles. J'ai rien à faire avec vos quêtes d'argent et de gloire d'homme. Et même tout le monde qui veut être président en citant Dieu. Mais tout ça, je ne vous ai pas connu, mon ami. Je ne vous ai pas connu. Même si tu es grand millionnaire, même si tu roules en jet privé, parce que j'avais beaucoup de foi, ou parce que vraiment, je savais bien manipuler la congrégation. Et Dieu dit, je ne connais pas ça. Mais même pour nous, bien sûr, je parle vraiment des extrêmes là, mais même nous, quand on est inconnu, ça nous fait mal. De dire, oh, petite église de Wavre, inconnue. Ou on peut dire, ah, toute ma vie, je voulais quand même être un peu mieux connu, mais on est oublié, ignoré. Mais connu de Dieu, alléluia. Connu de Dieu. Et c'est ça que... Ouais, mais bon, je ferai d'autres doigts vite fait. Hein. Mais ça, la pousse, c'est le plus important d'être connu de Dieu. Connu de Dieu. Et vous savez, dans la guerre, il y avait des soldats et des jeunes hommes. Et ils finissaient leur vie en miettes, inconnus dans la boue. Inconnus dans la boue. Et on ramassait des morceaux. Et on ne savait même pas leur nom. Et tu peux aller partout dans le nord de la France trouver des tombeaux. Et on ne sait même pas le nom de ces gars. L'Arc de Triomphe, on a fait une flamme et on dit le soldat inconnu. Peut-être tu penses que tu es un soldat inconnu aujourd'hui. Et peut-être tu dis, mais ma vie est comme ce tombeau, cette pierre tombale. Je suis dans la boue, je suis oublié, je n'ai rien après toutes ces années. C'est horrible. Mais vous savez, sur les pierres tombales britanniques, ils ont eu la bonne idée de mettre en bas de chaque pierre cette phrase. Known by God. Connu de Dieu. Connu de Dieu. Vous allez voir partout dans la région. Known by God. Known by God. Known by God. Connu de Dieu. Et d'un côté, peut-être aux yeux du monde, avec l'Arc de Triomphe, je suis le soldat inconnu. Mais moi, je ne veux pas être le soldat inconnu parce que je suis connu de Dieu. Et chacun de vous, vous avez écrit, même sur vos pierres tombales, même si vous sentez être dans la boue et dans le ridicule, ignoré, un grand échec, basta, connu de Dieu. Connu de Dieu. Connu de Dieu. Et tu dis, bon, mais personne lit mes livres, personne m'écoute, personne fait ça, personne fait ça. Connu de Dieu. Alléluia. Église de Wavrin. Connu de Dieu. Connu de Dieu. Et après, tu as envie, ah, je te connaissais, d'être connu de Dieu. Rencontrer chaque jour, chaque soir, ce sourire de Jésus le magnifique. Merci Seigneur pour ta grâce sur ma vie, connu de Dieu. Tu sais, l'ennemi ne peut pas vaincre ça. Il peut te ridiculiser, il peut te donner un sentiment d'échec, il peut te rouler dans la boue, il peut te faire éclater. Mais il y a toujours écrit sur toi, connu de Dieu. Alors là, on n'est pas là, je ne te connais pas. Mais là, on est là, je te connais. Et même avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est avant d'entrer dans le grand temple de Delphes, dans les temps de Grecs, ils avaient écrit « Connais-toi-même ». Connais-toi toi-même, c'est là. Connais-toi toi-même, Aristote, Platon. Ils ont tout fait ça. Mais ça, c'est tellement humaniste. Et avant, là, on a beaucoup plus qu'un temple grec. Maintenant, nous avons le grand temple. Et là, c'est pas « Connais-toi toi-même », mais « Connu de Dieu ». Connu de Dieu. Connu de Dieu. Allez, je vais aller. Allez, quitter le poussin. Je t'avais consacré. Je t'avais consacré. consacré. Parce que si tu veux avoir un sens, si tu veux un sacerdoce, si tu veux une vocation, si tu veux être utile, tu dois être différent, n'est-ce pas? Si nous on râle comme les autres râlent, si nous on pêche comme les autres pêchent, si nous on passe notre temps, si nous on est aussi conditionné que tout le monde par la télé, les médias, qu'est-ce qu'on va apporter? C'est notre différence, c'est notre consécration. Consécration, allez, c'est kadosh, kadash finalement, mais la racine c'est la sainteté. Ça veut dire d'être, pardon monsieur Macron, mais ça veut dire séparé. Séparer, les séparatismes, bien sûr. Voilà, on peut aller à la piscine ensemble, on peut manger un peu de porc si vous aimez bien. Mais on est séparés quand même, on est différents, on n'est pas juste les clones de la République. Vive la France, mais on est, vive Jésus-Christ. On est séparés d'une certaine manière. Bien sûr, on va obéir à la loi, on ne va pas exploser quoi que ce soit. Je dois dire ça parce qu'on est enregistré. Mais je le crois vraiment, je le crois vraiment. Mais on est séparés. La sainteté, c'est la séparation. On est consacrés et on est séparés de ce monde. On est séparés du péché, on est séparés du découragement, on est séparés de la pensée unique. On a une individualité suprême en Jésus-Christ. On est tous sauf une secte. Chacun reçoit le sourire pour être connu individuellement. Et je t'avais consacré. Et donc, il ne faut pas bafouer cette consécration. Si vous voyez la vie chrétienne comme, oh, il faut être gentil. Il faut être gentil. Juste comme une fin en soi. Il faut que je ne pêche pas. Il faut que je sois gentil. Mais c'est beaucoup plus que ça, n'est-ce pas? Moi, c'est comme un... Si je ne pêche pas, ce qui me motive le plus, c'est que je veux être utile pour les autres. Si je vais combattre, je ne veux pas arriver dans le ring, tout émessié, parce que je n'ai pas mangé. Je veux être capable de combattre, pas avec mes propres forces, mais parce que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Parce que je suis consacré. Et là, je t'avais consacré. Et là, il ne faut pas abîmer votre sens. Il ne faut pas abîmer votre destinée par le péché ou par les choses bêtes. Et vous savez, une feuille peut obscurcir le soleil si tu es mal positionné. Une petite feuille de rien peut obscurcir le soleil si vous vous coincez derrière cette feuille. Et un petit péché stupide peut voler le rayonnement de votre vocation. Il ne faut pas vous laisser abîmer par le péché. Il ne faut pas être pris en otage par un tas de choses. Mais bien sûr, le péché n'est rien pour Jésus. Comme ça, parti. Je te connais, ça fait partie de la connaissance, de le laisser enlever tous les obstacles à ta vocation. Allez, je t'avais... Et donc, on est séparés. On est séparé d'Égypte, on est séparé du péché, on est séparé de la mort, on est séparé de Satan. Je ne suis pas, allez, non, rien, je te déteste. Et donc voilà, séparé. Kadosh. Et aussi, je t'ai établi. Là, je dois faire attention à comment je montre ça maintenant, n'est-ce pas? Voilà, comme ça c'est mieux. Et donc ce doigt-là, c'est le droit d'être établi. Et le mot, c'est Nathan. Ça veut dire cadeau, don, cadeau. Et donc, Dieu veut que tu sois un cadeau pour l'autre. Il t'a consacré pour qu'il puisse te donner à ta famille, pour qu'il puisse te donner à la communauté, pour qu'il puisse te donner à l'Église. Donc, chacun de nous, on est des cadeaux les uns pour les autres. Et c'est ce qu'il dit en Éphésiens. Il a fait... Éphésiens 4, des dons des hommes, tu vois, et des femmes. On est des cadeaux les uns pour les autres. Les gens ont besoin de ton cadeau. Et si, pour cette main-là, il y a 2 ans, j'ai cassé ce doigt, et c'était en ongle, c'était au lieu d'être doigt, ça faisait comme ça, affreux. Et je me rappelle quand j'ai eu l'accident, je regardais, je dis, oh, ce doigt ne sera jamais rétabli. Mais quand je préparais ma prédication ce matin, et le cadeau, le don, le Nathan tombait là, Je dis, quelquefois, pour être vraiment un don pour l'autre, il ne faut pas avoir peur d'être cassé, que ton ambition, que tout, qu'on passe par la croix. Parce que Jésus, il a passé par la croix pour être un don pour l'humanité. Et quelquefois, nous, on doit, pour être vraiment un don, comment je peux dire, il faut être libre de toute attente de retour. Voilà, un don, sans condition. Je suis inconditionnellement donné. Et après, pas de retour. C'est très dur. Parce que souvent, on est donnant-donnant en France. Hein? Donnant-donnant quand même. Oh, j'ai fait tout ça. Oh, je ne vais pas donner deux fois. Parce que je n'ai rien reçu, même pas un petit merci. Bon, ça, c'est le problème des autres. Je ne dis pas que c'est juste. Je ne dis pas que c'est juste. Mais si tu veux vraiment avoir la joie de donner, donne sans condition. Et même si les gens ne disent pas merci, hein, si tu veux être connu de Dieu, sois ignoré des hommes. C'est encore une opportunité d'être connu de Dieu. Et tu peux lui dire, Seigneur, ça me fait tellement mal de ne pas recevoir un merci. Et il dit, oui, moi aussi, hein, j'étais pas beaucoup remercié quand j'ai donné mon fils. Et même aujourd'hui, tu vois ce que j'ai donné, les gens disent rien. Mais voilà, c'est un temps de grâce toujours. C'est un temps de grâce toujours. Et donc, j'étais établi. Après ici, pour être prophète. Et donc là, Jérémie, c'était un prophète. Mais toi, t'es quoi? Prophète, c'est Nabi en hébreu. Nabi, je suis le Nabi. Hein. C'est pour les musulmans, Nabi, hein, le grand prophète, Nabi. Mais si tu n'étais pas un Nabi, t'es quoi? Mais dans l'Église, je vais dire pour l'Église maintenant. Bon, vous connaissez les cinq ministères d'Éphésiens 4. Hein? Il y a l'apôtre, il y a le prophète qui montre. Il y a l'évangéliste, il est le plus grand, il est vu par tout le monde. Il y a le pasteur, il y a l'alliance, hein, il fait l'alliance. Et après, il y a l'enseignant. Pourquoi lui l'enseignant? Parce qu'il entre dans l'oreille. Tu vois, c'est comme... Et donc là, on voit déjà une diversité, là, juste pour les ministères dans l'Église. Mais chacun de nous, on a ces cinq choses, c'est en chacun de vous. Quand vous partagez, vous êtes un peu évangéliste. Quand vous avez des initiatives, vous êtes un peu apôtre. Quand vous donnez une parole, vous êtes un peu prophète. Et voilà, on peut tous enseigner, hein, conversation et tout ça. Il ne faut pas non plus. Quelquefois, c'est vraiment élevé, bien sûr. Il y a les gens qui sont vraiment consacrés à ces ministères. Mais laisse-moi faire une autre chose. Dans le monde, il y a des hommes d'affaires. Il y a les entrepreneurs. Hein. Être entrepreneur, la bienveillance, l'entrepreneur et des initiatives nouvelles, prophétiques, d'avoir l'intuition, de savoir, d'avoir du discernement, d'avoir de l'innovation, d'avoir des idées, là, d'avoir le marketing, la capacité de vendre quelque chose, là, d'avoir le RH, relations humaines, et là, juste de faire le mentoring. Tu vois, c'est pas juste limiter ses capacités. Il a mis ça dans tous les hommes. Et on peut avoir ça même dans la famille. Même dans la famille, un papa qui enseigne comment faire du pain à son fils. Hein? J'ai dit un papa, hein, au lieu de dire une maman qui dit à sa fille, tu vois. C'est... Mais tu vois, il y a des dons différents qu'on peut avoir, des vocations. Et donc, je t'ai établi. Qu'est-ce que c'est ton don? Pourquoi pas cette semaine dire cette chose-là que Dieu a fait avec moi? Je suis l'épouse, je suis son épouse. Là. Il y a l'alliance. Et dans moi, individuellement, il a mis quelque chose. Il a mis quelque chose que je peux utiliser pour sa gloire cette semaine. Un ministère, un service. Parce que je suis un don. Et ça peut trouver une forme. Peut-être dans l'Église. Bien sûr, quelquefois, il y a les gens qui sont vraiment spécialistes. Mais même si je suis laïque, il y a la même valeur. Et finalement, voilà, pour terminer. Prophète pour les nations. Et là, les nations, les goyim, ou les goy, et en pluriel, goyim. Et donc là, ça, c'est les gens qui ne sont pas dans le peuple de Dieu, les goy. Et là, on a beaucoup de goy autour de nous. Mais il ne faut pas être préjugé contre eux. Oh, les goy. Ça, c'était le problème d'Israël, quelquefois. Ils ont été saisis d'un nationalisme incroyable. Mais nous, on doit avoir un amour pour aller vers les gens du dehors, les gens qui sont loin, les gens qui nous entourent, et d'être gentil avec eux, et d'apporter notre don, d'apporter notre consécration, d'apporter cette connaissance de Dieu que nous avons. Et j'ai pensé quand j'ai vu ce petit doigt, hein, parce qu'on dit le petit doigt, hein, my little finger, mon petit doigt. Et ce petit doigt, Jésus a dit, ce que tu fais pour le plus petit de mes frères, tu fais pour moi. Et donc notre mission commence avec les plus petits. Les plus petits. Quelquefois on peut toucher les grands. Mais le ministère de Jésus, c'était vraiment avec les plus petits, même s'il parlait avec Pilate, il parlait avec d'autres, mais quand même, il était accueilli par les plus petits, souvent rejeté par les grands. Et pendant des années, j'ai fait des années de ministère dans le monde, et j'étais souvent entendu par les plus petits que par les grands. Mais voilà, même s'il vous donne un grand, c'est bien. Mais allez vers les gens. Allez vers les gens. Ça peut être des membres de votre famille, avec humilité, avec ce service, avec vos capacités, avec vos consacrations, et aussi avec cette intimité de Dieu que vous allez porter avec toi. Vous allez apporter le sourire de Jésus le Magnifique avec vous. Et donc, allez, main en l'air pour terminer. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Je t'avais consacré. Je t'avais établi. Avoir un sens, avoir un ministère, un don, prophète, pour les nations, les plus petits. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, bénis ses mains et utilise cette église. Et Seigneur, j'ai vraiment une prière pour tous ceux, peut-être ils ont tout perdu, là, dans les inondations et tout ça. Et peut-être ils disent tout est perdu. Mais je vais écrire sur eux, connu de Dieu aujourd'hui. Connu de Dieu. Je ne sais pas si ça va apporter une aide pour certains, mais voilà, même pour nous, même si nous perdons tout, nous ne pouvons jamais perdre ton sourire et on ne peut jamais perdre ton désir d'intimité avec nous. Et donc, Seigneur, connu de Dieu, quel amour, quelle grâce, que chacun soit béni, au nom de Jésus. Amen.